VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Nouveau naufrage au large de la Mauritanie, au moins 62 migrants sont morts. Au Burundi, au moins 38 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain après de fortes pluies. La chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a demandé la rédaction des articles de mise en accusation du président Donald Trump. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en France contre une réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, au moins 62 migrants partis de Gambie sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie. Nous faisons le point avec Idriss Fall.
C'est, à notre connaissance, un des pires naufrages cette année sur cette voie de migration par l'Atlantique, selon Frolance Kim, porte-parole de l'OIM en Afrique de l'Ouest. Ces candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe sont partis de la Gambie le 27 novembre. Le ministère mauritanien de l'Intérieur indique que leur embarcation de fortune transportait entre 150 et 180 personnes, dont des femmes et surtout des jeunes âgés de 20 à 30 ans. Ils allaient vers les Canaries, ils n'avaient plus d'essence, ils ont voulu se rapprocher de la Mauritanie et ont heurté un rocher, selon la porte-parole de l'OIM. Le naufrage s'est produit mercredi à environ 25 km au nord de Ouagadougou, près de la frontière avec le Sahara occidental. 83 naufragés, dont 10 mineurs, sont parvenus à rejoindre le rivage. Certains rescapés ont été hospitalisés en urgence à Ouagadougou. 58 personnes, dont au moins 8 femmes et un enfant, ont péri. Les victimes ont été enterrées cette nuit près de Ouagadougou, selon les prescriptions musulmanes et sans être identifiées.
La justice guinéenne a reporté son jugement dans le procès de 10 responsables d'opposition à l'origine de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le président de la Cour d'appel de Conakry a décidé de demander à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, de se prononcer sur ces poursuites, donc de dire si les articles du code pénal sur lesquels elles se fondent ne contredisent pas la Constitution qui garantit la liberté de manifester. Au Cameroun, 17 jeunes âgés de 11 à 20 ans ont été enlevés hier soir par Boko Haram dans la région de l'extrême nord, en proie depuis plus de 5 ans aux attaques du groupe djihadiste nigérian et insécurité au Nigeria également, où 14 personnes, dont 2 travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge, ont été enlevés dans le nord-est du pays. Ces voyageurs ont été interceptés hier soir par des insurgés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, sur une route de l'état du Borno, selon des sources sécuritaires nigérianes. Des bandits armés ont également tué 9 civils lors d'une attaque contre un village, mais du centre du pays cette fois. En République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été massacrés depuis lundi lors de nouvelles tueries dans la région de Beni. C'est ce qu'ont annoncé des sources au sein de l'administration et la société civile. Ni l'armée congolaise, ni la mission des Nations Unies au Congo n'ont confirmé ce bilan. L'armée et les casques bleus ont annoncé des actions conjointes dans la région contre les groupes armés. Au Gabon, le fils aîné d'Ali Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin, a été nommé coordinateur des affaires présidentielles, où il sera chargé d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Cette annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. Au Burundi, au moins 38 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain causés par de fortes pluies à Mugina, dans le nord-ouest du pays. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
De fortes pluies se sont abattues sur la colline de Niemhundu à Mugina, à environ 120 km de Bujumbura. Ces pluies ont causé des glissements de terrain. Ça s'est passé dans la nuit, alors que tout le monde était chez soi. Des éboulements de terre ont déferlé sur ces 3 collines et ont tout enseveli, a raconté un témoin. Il a ajouté que des familles ont été enterrées vivantes, de même que leurs maisons, leur bétail et leurs champs. La police continue les recherches pour retrouver d'éventuels survivants dans cette zone proche du Rwanda et difficile d'accès. Deux mois de forte pluie, pas encore terminée, ont entraîné des inondations et coulées de boue en Afrique de l'Est. Au moins 265 personnes sont mortes. Ces pluies torrentielles ont aussi provoqué des dégâts en Afrique centrale, avec des dizaines de victimes en RDC, dont 41 la semaine dernière à Kinshasa, en République centrafricaine, où chaque État d'environ 100 000 déplacés par les intempéries.
En Algérie, deuxième jour du procès pour corruption d'anciens hauts dirigeants et grands patrons qui s'est intéressé aujourd'hui au financement illégal de la dernière campagne électorale de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a demandé aujourd'hui la rédaction des articles de mise en accusation du président Donald Trump, qu'elle accuse d'abus de pouvoir. Eric Manirakiza.
Je demande aujourd'hui au président de la Chambre judiciaire de la Chambre des représentants, Jerry Nadler, d'entamer la rédaction des articles de mise en accusation, impeachment, a-t-elle déclaré lors d'une brève allocution. Selon Nancy Pelosi, le président a abusé de son pouvoir pour son profit personnel aux dépens de la sécurité nationale des États-Unis en conditionnant une aide militaire et une rencontre cruciale dans le bureau ovale à l'annonce d'une enquête contre son rival politique Joe Biden.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
Le président ne nous laisse pas d'autre choix que d'agir parce qu'il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice, a-t-elle justifié. Une fois que la commission judiciaire aura rédigé les articles de mise en accusation, ils seront soumis au vote en séance plénière et adoptés à la majorité simple de la Chambre dominée par les démocrates. Le président Donald Trump s'est dit convaincu de remporter la bataille. La bonne nouvelle est que les républicains n'ont jamais été aussi unis, a tweeté M. Trump. Peu après l'allocution de Nancy Pelosi. Comme pour Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, M. Trump risque d'être acquitté au Sénat, contrôlé par les républicains qui auront le dernier mot.
Toujours aux États-Unis, deux Russes accusés d'être à la tête d'un groupe responsable d'une vague de piratage informatique ont été inculpés, a annoncé le ministère américain de la Justice. Ils sont également soupçonnés d'être liés au service de renseignement du Kremlin. Plus d'un demi-million de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de France au deuxième jour de grève illimitée contre la réforme des retraites. Des incidents ont éclaté cet après-midi à Paris, théâtre d'une grande manifestation. Nathalie Barge.
À Paris, une remorque de chantier a été retournée et incendiée et plusieurs vitrines ont été brisées près de la place de la République. Les forces de l'ordre ont reçu des jets de projectiles et ont répliqué par des tirs de lacrymogènes. Au deuxième jour de grève, les transports sont particulièrement touchés, notamment dans la capitale, où 10 lignes de métro sur 14 sont fermées. Les syndicats ont annoncé que le mouvement va durer jusqu'à lundi. Une majorité de gares sont quasi désertes, 90% des TGV et 50% des Eurostar ont été annulés vendredi, a annoncé la SNCF. 70% des liaisons régionales seront annulées demain. À l'origine de la mobilisation, le futur système universel de retraite par points, censé remplacer les 42 régimes existants. L'exécutif promet un système plus lisible et plus juste, tandis que les détracteurs de la réforme s'attendent à une précarisation des retraités.
Au Liban, plus de 1000 Philippins, pour la plupart des employés de maison, se sont rués aujourd'hui à l'ambassade des Philippines à Beyrouth pour s'inscrire à une campagne de rapatriement gratuit proposée par leur pays, une campagne prévue en février prochain. Environ 250 000 travailleurs domestiques, venus en grande majorité d'Éthiopie, des Philippines ou du Sri Lanka, travaillent au Liban dans des conditions souvent décriées par leur pays d'origine et par les groupes de défense des droits humains. En Irak, la campagne d'intimidation s'est intensifiée avec le déferlement de milliers de partisans de paramilitaires pro-iraniens sur la place Tahrir à Bagdad, suscitant l'inquiétude des manifestants qui dénoncent depuis deux mois le pouvoir irakien et son parrain iranien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
La République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Burundi ont conclu un accord pour construire un chemin de fer à voie normale reliant les trois pays dans le but de faciliter les transports. Les études de faisabilité conduites par une société allemande seront achevées d'ici fin janvier 2020. Les gouvernements tanzanien et rwandais s'associent aussi pour construire un chemin de fer à voie normale qui reliera le port sec d'Isaka en Tanzanie à Kigali au Rwanda. Le Cameroun signe un contrat de 128 milliards de francs CFA avec un groupe italien pour la construction d'une route longue de 179 km et large de 10 mètres entre Ebolowa et Kribi via Akom 2. Les travaux débuteront l'an prochain et devraient durer 36 mois. Ils incluent, entre autres, la construction de trois stations de pesage et deux stations de péage. Cette nouvelle route devrait faciliter l'accès des produits agricoles de la région du sud du Cameroun au port en eau profonde de Kribi. Pour terminer, le gouvernement égyptien va lancer un programme de 100 milliards de livres égyptiennes, soit 6,2 milliards de dollars pour soutenir son industrie. Le projet fournira des prêts à un taux d'intérêt réduit de 10% aux usines dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de livres égyptiennes. Les autorités espèrent stimuler la compétitivité et la croissance du secteur privé du pays. L'initiative devrait être financée par des banques étrangères et les banques égyptiennes.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Fortune diverse pour les pays africains au mondial de handball féminin.
Oui, les jours se suivent et se ressemblent pour les pays africains à la Coupe du monde féminine de handball. Après trois défaites consécutives, la République démocratique du Congo a offert au continent son premier succès dans la compétition, victoire des Congolaises 25-24 face à la Chine. Par contre, pour son quatrième match, l'Angola est tombée devant la Norvège 24-30, même si la Palancas Azenaïde Carlos a été désignée meilleure joueuse de la rencontre. De son côté, le Sénégal a aussi perdu son quatrième match de suite, défaite des Lions devant la Hongrie 30-20. La dernière journée de la phase de groupe se joue demain. Le Sénégal fera face au Kazakhstan, la République démocratique du Congo face à l'Argentine et l'Angola affrontera Cuba.
Haltérophilie, le TAS confirme la suspension de l'Égypte.
Le tribunal arbitral du sport a confirmé la suspension pour 2 ans de la Fédération égyptienne d'haltérophilie pour des cas de dopage. Cette décision privera les haltérophiles égyptiens des prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. La Fédération égyptienne avait été suspendue pour 2 ans en septembre, ce qui l'avait privé des championnats du monde en Thaïlande. Cette suspension fait suite à une série de 7 contrôles antidopage positifs chez des jeunes haltérophiles en 2016. C'est un coup dur pour ce pays auquel l'haltérophilie a rapporté 31 médailles au cours de ses 22 participations aux Jeux olympiques. L'Égypte a obtenu 2 médailles de bronze aux JO de Rio 2016 grâce à Mohamed Ehad Mahmoud, également champion du monde, et Sarah Ahmed chez les dames.
Amazon fait ses débuts comme diffuseur de la Première Ligue.
Oui, le géant de la vente en ligne a fait ses débuts hier comme diffuseur de la Première Ligue. Amazon est le premier des géants technologiques à s'être immiscé dans le championnat le plus cher au monde en déboursant 106,6 millions d'euros pour diffuser 20 matchs par an pendant 3 ans. Parmi les avantages proposés par Amazon, la possibilité de regarder les matchs comme au stade sans commentateur et avec seulement le son du public. Le vrai test économique pour Amazon arriverait à la fin de la période d'essai gratuite de 30 jours proposée aux consommateurs, au terme de laquelle ils devront débourser un peu moins de 10 euros mensuels pour s'abonner.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, va devenir membre du CIO.
Oui, la candidature du patron du football sera proposée en janvier 2020 au vote de la centaine de membres du CIO, tout comme celle du japonais Yasuhiro Shimashita, président du comité olympique japonais et champion olympique de judo en 1984. 30 athlètes sont candidats pour les 4 sièges à pourvoir au sein de la commission des athlètes, parmi eux le basketteur espagnol Paul Gasol.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Retour sur l'invitation du président Emmanuel Macron adressée aux 5 pays du G5 Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme pour venir clarifier leur position sur la présence militaire française. Un rendez-vous fixé au 16 décembre à Pau, en France. Roch Kaboré a déjà annoncé hier qu'il se rendra à cette rencontre. Mais la question divise au Burkina Faso, comme l'a remarqué notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Dès l'annonce hier soir par Emmanuel Macron de l'invitation des 5 chefs d'État du G5 Sahel à Pau pour clarifier et formaliser leur demande à l'égard de la France. En un mot, si ces chefs d'État souhaitent oui ou non la présence française au Sahel, les réactions sont venues de toutes parts, à commencer par le président du Faso lui-même.
Nous allons répondre à cette invitation, évidemment, puisque j'assure la présence du G5 avec les autres chefs d'État.
Roch Kaboré.
C'est vrai que j'ai pas suivi en direct cette question. J'ai appris effectivement que nous sommes invités à participer à une rencontre le 16 à Pau, autour donc de la question de la force Barkhane et des relations donc de la France en ce qui concerne l'activité de Barkhane sur les mois et les jours à venir. Et nous aurons l'occasion de nous parler, je dirais franchement, sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui dans l'activité que nous menons ensemble dans la lutte contre le terrorisme.
L'initiative, à mon sens, ne va pas apporter de résultats parce que les chefs d'État vont renouveler leur attachement à la présence de la force Barkhane dans les pays.
Siaka Koulibaly, que nous avons joint au téléphone, est analyste politique.
Cela ne sera pas non plus une réponse pour la simple raison que ce sont les opinions et les peuples qui sont un peu en désaccord avec la présence française. Donc en appelant les chefs d'institution, les Français auront une réponse institutionnelle, mais qui ne répondra pas au vrai problème qui se pose, à savoir qu'il s'agit d'un ressentiment au niveau des populations, au niveau des opinions, et qu'il faut une réponse beaucoup plus complète pour cela.
Les anti-impérialistes restent dans leur position, qui est que l'occasion est venue pour les pays du Sahel, mais au-delà, toute l'Afrique, de dire non à la France. Pour eux, il faut une solidarité intra-africaine pour faire face au terrorisme. Serge Bayala est un leader de la société civile.
Il appartient aux Africains, aux présidents africains, de comprendre par eux-mêmes qu'une réponse efficace ne peut se faire de façon isolée des autres nations. Donc il faut un partenariat stratégique et sécuritaire intra-africain, organismes africains qui existent, les ensembles qui existent comme la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, elle ne peut pas continuer à être des coquilles vides qui n'existent que de slogans et de noms. Et il y a aussi un partenariat intra-africain avec des pays qui ont une avance sur les nôtres. C'est notamment l'Égypte, l'Algérie, c'est aussi des pays comme l'Afrique du Sud, c'est des pays comme le Rwanda qui ont une expertise militaire qui n'attend que la demande, la manifestation de nos États pour qu'ils les volent au secours.
Pour l'heure, en dehors de la France, très peu de pays, même africains, se montrent intéressés à la lutte contre le terrorisme. Selon des sources diplomatiques et sécuritaires sous-régionales, le président Alassane Ouattara pousse pour un déploiement de ses forces pour épauler les pays du Sahel. L'UEMOA devrait bientôt se réunir sur l'envoi des troupes ivoiriennes et sénégalaises du Sahel. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Suite de l'affaire Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, la CTDH, qui est détenue à N'Djamena. Il était mis en cause dans une affaire de diffamation, mais une requalification des faits l'accuse de complicité de meurtre. De nouveau auditionné ce jeudi, il a été placé sous mandat de dépôt. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena maître Jacqueline Moudeina du collectif d'avocats défendant Mahamat Nour Ibedou. Maître Moudeina revient tout d'abord sur la journée d'hier.
Arrivé à la police judiciaire, il a été régulièrement auditionné. Un PV a été établi. Il a donc signé ce PV après son audition. Et il était question d'attendre simplement le directeur intérimaire de la police judiciaire qui devait confirmer d'un délai pour apporter des preuves complémentaires. Et c'est curieusement à 15 heures que un officier de police judiciaire arrive pour appeler Ibedou dans une autre salle. Cet officier fait savoir à Ibedou qu'il doit l'auditionner. de tout ne comprenant rien, demande qu'est-ce qui se passe parce que il a été auditionné, un PV a été dressé régulièrement, il l'a signé. Il dit non, c'est une autre affaire, c'est une affaire de crime. Simplement cela. Alors, on a demandé en quelle qualité il devrait être auditionné pour cette affaire de crime. Il n'y avait pas de réponse. Mais le monsieur disait qu'il avait en sa possession un email, un échange d'email de Ibedou. C'est tout ce qu'il avait. Donc Ibedou avait refusé, évidemment, de se faire auditionner sans convocation, sans notification des faits qu'on lui reproche. Donc tout de suite, il a été gardé à vue et le lendemain déféré au parquet. Le parquetier a très vite fait de l'envoyer chez le juge d'instruction. Le juge d'instruction qui a été saisi après avoir auditionné Ibedou se rend compte qu'il a été mal saisi et qu'il fallait repartir au parquet. Donc Ibedou est reparti au parquet et c'est ce matin qu'on le renvoie devant ce même juge d'instruction qu'il a auditionné et qu'il a placé sous mandat de dépôt.
Que compte faire l'équipe de défense d'Ibedou?
On va s'employer à le défendre. Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises, que ce soit devant le parquet, que ce soit devant le juge d'instruction, nous avons démontré à plusieurs reprises l'irrégularité de cette procédure-là. D'abord, il n'y a pas eu de plainte. Ça, c'est la première irrégularité. Il n'y a pas eu de plainte. Et il n'y a pas eu de convocation dans cette affaire-là. Et la garde à vue de M. Ibedou, qui a pris fin hier à 10h, a été illégalement prorogé pour qu'il comparaisse ce matin devant le juge d'instruction.
C'était Maître Jacqueline Moudaïna du collectif d'avocats défendant Mahamat Nour Ibedou. Elle était jointe à Djamena.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Des centaines de réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo sont rentrés chez eux. Ce rapatriement s'est effectué dans le cadre du tout premier programme de retour volontaire pour environ 172 000 personnes déplacées de force suite au conflit centrafricain qui a éclaté en 2013. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Des chants de joie. L'émotion était palpable au sein de ces 400 réfugiés centrafricains qui quittent Zongo dans la province du sud Ubangi, dans le nord de la RDC, pour poursuivre leur voyage en bateau. Destination Bangui, la capitale de la République centrafricaine. À l'arrivée, autorités, parents et amis sont là pour souhaiter la bienvenue à leurs compatriotes qui avaient fui le pays en raison du conflit qui a éclaté en 2013. Parmi eux, Serge Adam.
Après 6 ans d'absence, et avec les amis, les parents, aujourd'hui, je sais que je suis chez moi. Nous sommes comme un nouveau-né.
Comme Serge, Marie-Joseph Demba a 60 ans et revient avec ses deux filles et sa petite-fille.
Nous sommes nombreux, et les jeunes, et les enfants, et les jeunes filles. Maintenant, nous sommes à la charge de notre gouvernement.
Ce retour volontaire au Berkay a été rendu possible grâce à un accord tripartite signé par le HCR et les gouvernements de la RDC et de la Centrafrique en juin dernier. Depuis, 4000 personnes se sont inscrites au programme de rapatriement, espérant rentrer chez elles d'ici fin 2019. Bouti Kalé est le représentant du HCR en République centrafricaine.
Nous espérons continuer et avec le financement que nous avons, pour un nombre limité de réfugiés, nous allons le faire jusqu'à la fin de cette année et nous continuerons jusqu'en 2020 pour nous assurer que ceux qui ont exprimé la volonté de revenir pourront le faire.
Une meilleure sécurité dans les zones d'origine suite à l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés a motivé ces réfugiés à mettre fin à leur exil. Ils devront maintenant retrouver leur maison à l'intérieur du pays, espérant que ce qui s'est passé ne va plus se reproduire. C'est le souhait de Renaud Mawina.
Oui, la crainte est que nous ne voulons pas que cette situation qui est venue perturber le pays ne puisse pas répéter parce que nous n'avons pas la force. Espérant que nos enfants reviennent dans une condition de la paix.
Près de 600 000 réfugiés centrafricains vivent dans des pays voisins, tandis qu'un nombre égal reste déplacé à l'intérieur de la Centrafrique. Philippot Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, était à Bangui pour accueillir ses désormais anciens réfugiés centrafricains. Il a aussi une pensée pour les déplacés internes.
Au moment où nous voyons ces réfugiés rentrer, il y a encore beaucoup de déplacés dans ce même pays qui aussi méritent le support et l'appui de la communauté internationale.
Au cours des trois dernières années, le HCR a aidé au retour de 13 500 personnes et estime à 127 000 le nombre de réfugiés centrafricains qui sont volontairement revenus chez eux.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Cameroun a organisé une campagne nationale de vaccination pour enrayer une épidémie de rougeole qui a infecté plus de 3000 personnes cette année. La région la plus touchée est la frontière avec le Nigeria et le Tchad, où 17 enfants sont morts ce mois-ci. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Le docteur Edzo Abris coordonne les équipes de vaccination déployées dans les villes, villages et autour de Yaoundé. Il parcourt les rues de la capitale pour dire aux gens que des équipes sont à tous les carrefours dans les églises, écoles, marchés et lieux fréquentés pour vacciner les gens. L'infirmière Thérésia Mabou, membre d'une équipe de vaccination, a déclaré que cette campagne vise à sauver des millions de vies menacées par une épidémie de rougeole.
C'est efficace, c'est simple et gratuit pour tous les enfants. J'appelle donc tous les parents et toutes les mères à vacciner leurs enfants. Nous avons également le déparasitage des enfants à partir de 1 an. La vitamine A est administrée aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
Le ministère de la Santé indique que les régions du Nord, où plus de 2000 des 3000 cas ont été signalés cette année, affichent des taux de natalité plus élevés et une couverture vaccinale plus faible, à peine 3 mères sur 10 visitant des établissements de santé. Les parents préfèrent les tradis praticiens, qui sont plus accessibles que les hôpitaux souvent éloignés et dépourvus de médicaments. La peur et la désinformation suscitent la méfiance vis-à-vis des vaccinations. Certains parents refusent ou oublient de faire vacciner leurs enfants à l'âge de 9 mois, comme l'Organisation mondiale de la santé le recommande. Lovelyn Tossam, une mère de famille âgée de 23 ans, a déclaré que c'est après avoir perdu sa fille de 2 ans, peu après son arrivée à l'hôpital du district de Biyemassi à Yaoundé, que le personnel médical l'a informé qu'elle devait vacciner ses enfants.
Elle toussait. Elle était très faible et elle vomissait sans cesse. 24 heures après, nous l'avons perdue.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hésitation à l'égard des vaccins est l'une des 10 principales menaces à la santé mondiale qui ont conduit à la réapparition de la rougeole dans certains pays. Le docteur Fanuel Abimana, représentant résident de l'OMS au Cameroun, a déclaré que les gens devaient faire confiance à la capacité des vaccins de sauver des vies.
Le vaccin qui est offert aux enfants est un vaccin sûr, efficace. C'est en fait le vaccin que vous et moi avons reçu quand nous étions enfants. Et donc l'OMS en appelle à la mobilisation communautaire, à la mobilisation des leaders politiques, des leaders communautaires, de toute personne qui a de l'autorité, de permettre aux enfants de se faire vacciner durant cette campagne. Au-delà de la campagne, il faut continuer à renforcer la vaccination de routine.
Deux injections peuvent prévenir la rougeole et l'OMS affirme que le traitement est sûr et efficace et qu'il est utilisé depuis les années 60. Le Cameroun a enregistré sa dernière épidémie massive de rougeole de février 2010 à juillet 2011, au cours de laquelle 37 des 179 districts de santé du pays ont été touchés.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Cheikh Thiero. À la console, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Tout de suite, le RM Show présenté par Roger Muntou. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.